Donc on va commencer l'émission avec une petite revue de presse, l'occasion de signaler que le Ciné Live de mois de mai est sorti depuis le début du mois, mais il faut quand même souligner le prix relativement modique de ce numéro mini, c'est-à-dire qu'ils l'ont sorti dans un ratio beaucoup plus petit que dans ce petit format donc que d'habitude. Le prix est de 1,50€, nouveau prix découverte, et la couverture c'est Dark Vador. Donc il faut savoir que son grand frère, donc le Ciné Live en grand format, avait plusieurs couvertures. Donc c'était au choix soit un reportage sur les acteurs des forces du bien, du bon côté, du côté obscur, et par opposition au côté bon de la force.
Voilà. Eh oui, ça fait deux fois plus de papier, mon gars.
Voilà. Hein, donc là,
et deux fois on ramasse la mise.
Voilà, pas le choix concernant ce petit format. C'est ils ont choisi leur camp, c'est le côté obscur à fond. Donc Dark Vador en couverture, interview de Ian McDiarmid et de comment il s'appelle, Hayden Christensen. À noter aussi une excellente interview de Ridley Scott qui est assez intéressant l'interview. Hein.
Ouais, c'est un bon client, hein, c'est ce qu'on appelle un bon client, voilà. Généralement.
Donc,
quoi.
Il est revenu sur Kingdom of Heaven, dont je vous avais parlé la dernière fois, et ainsi que sur la sortie DVD de Blade Runner, qui va bientôt arriver. Ça, quand on sait qu'il y a eu beaucoup de versions Director's Cut, ils en ont mentionné au moins 7.
oui, j'en ai une.
Voilà, donc j'ai parlé de Star Wars, c'est l'occasion de commenter le petit film qui est sorti mercredi dernier. Donc je sens déjà qu'il y a certains qui ont reconnu la chanson. Pour les autres, rassurez-vous, ce n'est pas une chronique de Supercopter. Ce qu'il faut signaler, c'est que ce film est absolument magnifique. Par rapport aux deux premiers épisodes qui étaient vraiment merdiques, on sentait vraiment Lucas qui avait étiré sur deux épisodes là où une histoire aurait pu être racontée finalement en un seul. Et là, franchement, on prend une claque. Hein. C'est, je sais pas si tu l'as vu, du sport.
Non, pas du tout. Non. Mais moi déjà, j'aime pas aller au cinéma parce que je trouve que payer une place ce prix-là, c'est indigne. Le son est trop fort. On est emmerdé par les voisins. Ça bouffe à tout vent. Bon, c'est pour ça. Moi, j'ai un parti pris. Je me réserve pour les petits cinémas où c'est interdit de bouffer, où on a quand même le respect du voisin qui vient voir un film et où ça coûte un peu moins cher, quoi.
Okay,
50 balles une place de cinéma, faut quand même pas déconner.
Ok, je te coupe, on va laisser.
Et je peux pas supporter la tronche à Hayden Christensen non plus. Alors bon, ça la fout mal pour Dark Vador.
Jim Morrison est en train d'expliquer ce que ressentent les fans en ce moment. This is the end. Of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So live madness and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land.
Bon, je veux pas dire, mais enfin, c'est quand même un morceau vachement long, hein. Bon, c'est les Doors, d'accord. Enfin bon, dans une émission d'actualité supplément week-end qui fait qu'une heure, Hein, on va pas se passer le morceau en entier. Hein. Généralement, les vieilleries, c'est moi qui les passe dans la deuxième heure de Ça c'est du sport, tu vois. Pour parler aux petits jeunes. Alors, tu me casses mon cou, là. Et je te signale quand même que tu as dit dans le sommaire qu'on avait un invité, non ?
Mais on va faire l'interview tout à l'heure, mais là on va parler de Star Wars.
Ah bon, d'accord.
Ok, moi qu'on enchaîne, donc histoire de l'épisode 3, la revanche des Sith. C'est la guerre, les deux Jedi, Anakin et Obi-Wan doivent délivrer Palpatine, donc le chancelier, futur empereur, enlevé par les séparatistes Grievous, donc c'est l'espèce de mutant droïde et organique qui avait été introduit notamment dans la série animée Clone Wars, dont M6 justement a fait la diffusion lundi dernier, qui était pas trop mal d'ailleurs, j'étais assez bluffé, et enlevé également par le comte Dooku. On va voir la façon dont finit Christopher Lee. Oh merde, commencer à spoiler le film, c'est pas cool. Donc ce qu'on peut dire du film, c'est qu'enfin on a des idées par rapport aux deux précédents qui étaient vraiment des merdes. Là on a véritablement un réalisateur aux commandes, on sent que Lucas s'est réveillé, ou alors il a été bien secondé, c'est selon. En fait c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'on sent finalement qu'il est quand même impliqué enfin dans sa nouvelle trilogie, et que son attitude en fait de balancer un peu à la vas-y comme je te pousse les deux précédents, tout on comprend que tout tendait vers cet épisode final, c'est-à-dire la longue traversée du désert d'Anakin qui le pousse à devenir finalement Dark Vador. On a un visuel extrêmement riche, alors pas seulement des plans sans imagination créés 2 ans avant la finalisation des effets spéciaux, ouais, comme on a vu l'impression dans l'épisode 1 ou 2, surtout dans le 2 d'ailleurs, mais on a vraiment une créativité absolument dantesque et une volonté d'en foutre plein les mirettes et clore la saga en beauté. On a une succession de moments d'anthologie allant de du plan séquence d'ouverture où il y a une caméra qui suit les deux vaisseaux à travers une bataille galactique. C'est super impressionnant, tu es scotché alors qu'on avait tellement pris l'habitude d'avoir des plans-plans.
Mais justement, c'est cette espèce de marque de fabrique qu'il avait depuis le départ, depuis la première trilogie, ouais. Hein, depuis Star Wars
4, 5 et 6.
Empire Strike Back. Ouais. On se disait, putain, dans les batailles galactiques, c'est vraiment le plus fort, c'est l'étalon, hein, on va dire l'étalon maître en ce qui concerne les batailles galactiques et les effets spéciaux et tout. Et puis bon, justement, il s'était un petit peu assoupi, hein, dans le 1 et le 2. Alors bon, ça commençait à bien faire. Je vais même t'avouer que j'ai regardé l'attaque des clones que je n'avais pas vu au cinéma, ouais. Donc lundi dernier au cinéma à la télé sur M6, je te signale que je me suis endormi.
Quand même, et tu t'es pas endormi sur l'épisode 1 ?
Non, là par contre, non, celui-là je l'avais vu au cinéma.
D'accord. Quoi. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a aussi, on a un combat entre Dooku et Anakin, donc le retour du 2. Je sais pas si t'avais résisté jusqu'à cet temps.
Non, je m'étais endormi avant.
Ah, avant, d'accord. Ouais, tu l'avais pas vu.
Quand c'est mou, là, tu sais, les deux tiers du film.
Oui,
c'est
oui,
mou.
Avec les couleurs. Ah oui, c'est quand il y a Anakin qui est en train de flirter avec la princesse, voilà. C'est ça? Voilà. Donc, on a aussi un duel entre Obi-Wan et Grievous, donc le droïde dont je vous parlais tout à l'heure et qui, franchement, était super charismatique dans l'animé, et là il dure même pas le temps de dire ouf, c'est nul. Mais bon, on a aussi quand même un duel attendu par des millions de fans à travers l'histoire de la galaxie. C'est même un duel entre les deux maîtres des deux côtés de la force, l'empereur Palpatine et Yoda, quand même, avec duel d'éclairs et de contre-éclairs de Yoda. Ça c'est assez fun, et bon, on est loin quand même des combats de Tarlous de Matrix, hein. Là c'est un truc à souligner. On a également une cohérence dans le visuel, on a pas seulement un visuel qui en fout plein la mirette, mais aussi un visuel cohérent allant de la chorégraphie des combats qui a été sensiblement modifiée par rapport à l'épisode 2, où on voyait effectivement Anakin qui faisait des beaux moulinets au ralenti, ou des couleurs de partout, génial. Alors dans le 3, il est vraiment c'est la brutalité pure, et puis il va directement à l'essentiel. On sent vraiment que tout a été mis toutes les forces ont été mises en commun pour véritablement raconter cette histoire, hein, de Anakin qui devient Dark Vador. On a aussi une intro progressive au code visuel de l'épisode 4 du Nouvel Espoir, c'est-à-dire qu'on a déjà un aperçu du vaisseau qui ouvre l'ancienne trilogie, le Blockade Runner, ainsi que une petite apparition du Grand Moff Tarkin à la fin du film. C'est assez rigolo, avec, on reconnaît la pilosité capillaire, c'est assez propre à ce personnage. Mais là où ça coince, on a des moments d'anthologie, mais des moments d'anthologie dans le ridicule aussi, parce que ça coince un peu la volonté de George Lucas cas de absolument caser tous les anciens personnages de l'ancienne trilogie. Bon, ce qui était risible dans le 2, c'était justement, vous voyez Boba Fett enfant, c'était super rigolo, mais bon, dans le mauvais côté. Et là, on a la planète Kachik, où on voit ben, un certain mec qui fait
Chewbacca.
Voilà, voilà. Donc, bon, la principale qualité du film par rapport aux deux précédents, c'est qu'il n'y a pas d'humour. Là, franchement, on peut tirer notre chapeau à Lucas. Hein. C'était pas si dur, finalement, hein, de faire un truc charismatique. On a une épuration de tout ce qui n'entre pas dans le cadre de la transformation d'Anakin. Et finalement, c'est dans ces moments-là que le film fait le plus peur. C'est dans les conversations qu'il a avec le chancelier qui le pousse lentement vers le côté obscur. Ça rappelle un peu les espèces de dialogues très très noirs de, par exemple, de film Coppola, Le Parrain 3, par exemple, quand ils sont à l'opéra. Et là, on a un splendide exemple d'opéra futuriste, visuellement et au point de vue sonore, ça pète grave aussi. C'est là que tu comprends aussi que les deux épisodes précédents, malgré tous les défauts dont on a parlé tout à l'heure, ben finalement, ils étaient pas si inutiles. C'est-à-dire qu'on comprend pourquoi Anakin passe du côté obscur, il était attaché à sa mère, il était attaché à Padmé, etc. Et c'est pour ça, donc, ben je veux pas vous spoiler le film, allez le voir. Ça, ben ça meule, hein, franchement, voilà. Une petite conclusion. Je voulais juste dire que ce que je trouvais dans cet épisode, c'est que c'était un slasher de nouveau genre. On sait, c'est comme le croque-mitaine ou Mac Myers, on sent que Dark Vador va arriver, mais on sait pas quand. Le mec, il va frapper, et puis voilà, c'est un slasher de nouveau genre, voilà. Mais, en tout cas, je te conseille du sport d'aller le voir au cinéma. C'est, je peux te dire qu'il y avait, moi je suis allé, il y avait Luke et Leia dans l'assistance, le mec déguisé, les cheveux blonds et tout, et les applaudissements au début du film, et après plus personne ne move, peut-être pendant tout le film.
Bah tu m'étonnes, il y a intérêt. Voilà. Hein.
Tu vas aller voir Hervé ?
Bah il était encore allé voir.
Ah bon, d'accord, ben vas-y aussi.
Tu me donnes envie donc là.
Voilà, bon, on a terminé avec Star Wars.
De toute façon, on va dire que sur ce qu'on a pu voir au niveau des sentiments ressentis après la vision du film, hein, tous les reportages qu'on a vus, généralement, bon ben, c'est, on va dire, les retrouvailles avec le vrai Star Wars, avec des trucs qui pètent. Puis bon, il y a tout de suite la comparaison avec l'Empire contre-attaque, qui est la référence dans la première trilogie comme étant généralement le film préféré, on va dire, des fans, hein, et de pas mal de gens, ouais, dont je suis. Et là, on est en train de les mettre à égalité avec les gens. Ouais, bon, mais la Revanche des Sith, c'est quand même plus récent, donc hein, ça devrait être plus marqué, on va dire. Et c'est pas la même génération du tout, en plus.
Oui, mais on sent vraiment que plus que la fin de la saga, c'est plutôt un énorme cadeau que Lucas a fait aux fans de la première heure. Là, franchement, il y a des allusions de partout, mais très subtiles, pas comme dans les deux derniers. Hein. C'est vraiment très subtil ce qu'il avait réussi à faire. Bon, ben voilà, je sens que Hervé va s'endormir, donc on va passer à l'interview. Hein.
Ouais, bon, on va passer un petit morceau de musique avant pour discuter le coup, vite fait. Et puis ensuite, eh bien, ce sera ton tour.
Clearwater, Strictly Rock Azaya. Not true, Jenny? Yeah! You big disgrace, kicking your can all over the place. Sing,
we will rock you.
Sing it, sing it.
We will rock you.
Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street. Gonna be a big man someday. You got matter on your face, the big disgrace. Kicking your can all over the place. Sing,
style.
Sing it.
Tout le monde aimerait être connu. Plus que le quart d'heure promis par Andy Warhol. D'autres aimeraient l'être, mais sans que leur nom soit forcément reconnu. Plutôt en ayant une marque de fabrique. Donc ça tombe bien, le nom de ce collectif que tu représentes, Hervé, c'est les Illustres Inconnus que nous avons invités pour cette émission. Ces sympathiques gens organisent dans 15 jours un musée éphémère qui vont nous proposer de faire vivre, histoire de dépoussiérer justement le concept d'art contemporain, en dehors des écoles des beaux-arts, vous savez, ces institutions où on apprend à devenir artiste et essayer de citer les 10 mêmes références partagées par tous les profs, et si tu sors de ces références-là, ben ah ben non, désolé, on t'accepte pas dans l'année suivante, voilà. Donc tout ça pour finir soit prof, soit dans la rue, soit... on sait pas trop. En dehors de ces institutions à fabriquer des pots de fleurs pour Jack Lang, ils ont décidé de se mettre en avant-gardisme en imagerie pop entre recherche pointue et grand public. Coup de bol, ils sont ici représentés sur ce plateau par Hervé Beaurois. C'est le collectif des Illustres Inconnus que vous allez donc apprendre à connaître. Et j'espère dans 15 jours visiter leur musée provisoire à l'occasion de leur escale à la Croix-Falgard. Donc, je crois que c'est le... je retrouve mes notes, 3, 4, 5 juin. C'est pas le week-end prochain, c'est dans 15 jours. Donc.
C'est dans 15 jours, ouais.
Donc avant que ces Illustres Inconnus deviennent inabordables sur le marché de l'art, c'est l'occasion d'aller humer les tendances actuelles et de faire leur rencontre. Hein. Donc on vous souhaite, déjà on te souhaite qu'il y ait beaucoup de monde déjà. Et bon, on va commencer. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton association, les Illustres Inconnus, qu'est-ce que c'est les escales?
Bah alors en fait les Illustres Inconnus, mais comme son nom l'indique, c'est un collectif d'illustres inconnus au départ.
D'accord.
C'est l'association pour le mélange des arts. Donc on a pour objectif de favoriser la transversalité entre les différentes disciplines artistiques contemporaines ou autres.
D'accord, est-ce que si on peut parler de vos influences, est-ce qu'il y a un mouvement artistique particulier dont vous sentez proche?
Pas particulièrement, on s'intéresse à tout, on a pour objectif de délier des petits liens, tant sur le domaine musical que la danse, que les arts vidéo. C'est vrai qu'on s'appuie assez quand même sur les nouvelles technologies au service des arts.
D'accord, donc on parlait des écoles des beaux-arts tout à l'heure, pas de cloisonnement en fait, hein.
Non.
C'est justement l'inverse.
Décloisonnement, voilà. L'objectif.
D'accord, est-ce que vous êtes plutôt abattoir ou VKS?
On va dire plutôt VKS. Hein.
Ok. Plutôt Bauhaus ou Jean-Michel Basquiat?
Jean-Michel Basquiat.
Ok, donc c'est le petit quiz qui continue. Est-ce qu'il y a, comme vous êtes une association débutante, puisque je crois qu'elle a un an d'existence pour l'instant, c'est ça?
Voilà, on vient juste d'avoir un an, à peine un an.
D'accord. Est-ce qu'il y a un autre collectif qui t'a donné, par exemple, l'envie de créer ça, ou dont tu peux t'inspirer, ou dont tu te sens proche aussi?
On est venu pour arriver à cet objectif, en fait, d'un constat. On a remarqué que souvent, les disciplines artistiques restaient dans leur monde clos. On trouvait ça dommageable, alors que des liens évidents existent, tant sur la poésie qu'avec la musique, qu'avec la danse. Ça semble logique, tout ça, ça paraît homogène et évident. Et donc on a eu envie, à travers les Illustres Inconnus, de favoriser les ponts et les liens entre les artistes et les hommes également. Hein. C'est des rencontres humaines, évidemment.
D'accord. Quel a été ton parcours? Parce que je crois que tu m'as dit que tu n'étais pas du tout artiste, en fait.
Non, moi, je suis pas artiste.
T'as fait quoi comme école? Est-ce que t'as reçu une formation qui t'a sensibilisé au monde de l'art? Est-ce que tu avais des parents qui...
À titre personnel, évidemment, moi, je m'intéresse en grand public à tout ce qui se fait. Moi, je suis de formation scientifique, à vrai dire. Et les sciences m'ont tout naturellement poussé à voir un peu plus loin que ce qui existe autour des chiffres, des multiplications. Aller au-delà de ça. Mmh.
Mais c'est finalement ça qui est assez difficile à comprendre. Tu dis tout naturellement, les sciences ont poussé vers le monde de l'art.
C'est le côté scientifique qui est intéressant, parce que c'est quand même assez...
C'est un petit peu l'appétit rigoureux. De la découverte aussi.
Oui, hein, voilà, c'est le côté rigoureux qui pousse à décloisonner. Dans les sciences aussi également, il y a les sciences naturelles, les sciences physiques, etc.
Bah, c'est en train de se décloisonner aussi, ça. Hein,
tout voilà, façon, ouais. C'est dans le même esprit, hein, de toute manière.
Ouais.
D'accord. Ton asso, comment t'as réussi à la monter? Est-ce que tu connaissais des artistes au départ qui souhaitaient montrer leur boulot et avaient besoin de quelqu'un comme toi pour leur donner des occasions de le faire? Ou est-ce que tu as lancé un appel finalement sur le net ou avec un autre média et sélectionné des travaux avec lesquels tu te sentais en adéquation?
Effectivement, il y a des artistes qu'on connaissait, des collègues, des amis, des connaissances. Et au-delà de ça, on est allé en avant des artistes qui existent. Donc on est allé dans les salles de répétition, dans les caves, dans les scènes ouvertes. On s'est présenté, on a expliqué un petit peu dans quel esprit on travaillait. Et puis quand ça faisait tilt, ça faisait tilt à partir de là. Voilà, il y a un petit collectif qui s'est monté par rapport à ça.
D'accord.
Les artistes intervenants sont libres et ils interviennent tantôt sur une manifestation ou pas pendant plusieurs mois. Rien n'est obligé. On propose, après c'est eux qui disposent.
D'accord. Et quand tu dis on, vous étiez combien le noyau dur au départ? C'était 2-3, c'était...
Ouais, c'est ça, c'est 3-4.
D'accord, vous démarchiez ensemble?
Ouais, voilà, ça... tout simplement.
D'accord.
Au cours des soirées. Hein.
D'accord. Cette manifestation là, les escales qui aura lieu dans 2 semaines, j'ai pu voir qu'il y avait des artistes invités comme Pierre-Yves Cruau qui fait de la vidéo, ou Issa, collaboration avec Pascal Delay qui fait des performances à mi-chemin entre la danse et les arts plastiques.
Ouais.
Comment est-ce que tu choisis ces artistes
Alors là, c'est marrant pour le cas dont tu viens de parler avec Issa et Pascal. On fait des manifestations bien sûr, mais on fait également au cours de l'année des stages découvertes de 2 disciplines croisées. Donc une fois par mois, on propose un week-end d'immersion avec 2 artistes. Dans le cas de Pascal et d'Issa, c'est donc une plasticienne et un danseur contemporain. Ils ont eu l'occasion donc de préparer un stage, et dans ce cadre-là, à partir du moment où ils préparent un stage avec un projet pédagogique derrière, il y a des liens, des amitiés qui se font, et ils ont eu envie de présenter une performance par rapport à ça.
D'accord.
Donc, tu vois, en fait, c'est le travail au cours de l'année qui fait que des créations se font.
Alors cette performance-là, ça a été réalisé avec des gens qui sont inscrits à leur atelier, c'est ça?
Voilà, la performance, c'est eux deux.
D'accord,
avant tout,
eux
d'abord.
Deux. D'abord. Ouais. Ok. Les adhérents de ton association, comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce que ils sont une étiquette d'illustres inconnus pendant qu'ils font des performances ou des danses ou des spectacles tout au long de l'année? Est-ce que ils reviennent ensuite plusieurs mois après dans ton asso au sein des illustres inconnus? Comment ça se passe exactement?
Ah, c'est pareil, c'est comme pour les artistes, c'est mouvant. Donc des fois on fait des soirées plus avec une thématique danse, ou plus avec une thématique musicale, donc en fonction des envies, le grand public vient ou revient. En tout cas, de toute manière, on les tient au courant soit par mail, puisqu'on les tient au courant des manifestations. La dernière étant au mois de janvier dernier, on a fait une quinzaine dans la salle du bijou qui s'intitulait Les Rancards. C'est notre manifestation annuelle. Dorénavant, on donnera rendez-vous l'année prochaine en janvier, la première quinzaine, dans un autre lieu, sous une autre forme. Donc voilà, donc régulièrement le public nous suit, c'est super intéressant, et il y a des nouveaux adhérents, il y en a qui reviennent pareil comme pour les artistes dans 3 mois après, ça dépend aussi de la programmation.
D'accord, alors on peut avoir un exemple, par exemple, d'un artiste qui arrive, il présente son travail une fois, et puis 2-3 ans après, il revient dans le cadre de l'asso pour montrer autre chose.
Voilà, soit il revient dans le cadre de l'asso pour montrer autre chose, soit il a participé à un des ateliers, si ça lui a intéressé, en collaboration avec un autre artiste, auquel cas la fréquence est plus rapide. Mmh. En tout cas, on n'impose rien, donc on est ouvert à tout artiste qui a envie de s'essayer. C'est ça qui est important, c'est que les portes sont toujours ouvertes.
D'accord, donc dans le cadre de ce que tu disais à l'instant, s'il y a des artistes qui nous écoutent en ce moment et qui veulent te montrer leur boulot, est-ce qu'ils peuvent venir donc justement dans le cadre des escales là, dans
Oui, voilà, ça c'est l'occasion, hein, c'est pendant ces manifestations-là que c'est le plus intéressant. Quoi. Ils viennent, on en discute. Nous, de toute manière, on a pour objectif à chaque fois de... soit de venir les voir après en répétition, soit de venir les voir au cours d'une manifestation, au cours d'un spectacle qui présente. La meilleure scène, c'est lorsqu'ils sont devant le public, qu'on ait une appréciation homogène et cohérente.
D'accord. Je vois sur le dossier de presse que tu nous as fait parvenir que cette manifestation est organisée conjointement avec l'association Le Chèvrefeuille.
Oui, tout à fait, oui.
Et tu peux nous dire 2 mots sur votre association, tous les deux?
Ouais, comment ça s'est passé, en fait?
Ouais, ouais.
Ouais, c'est tout simple, en fait. Mais comme je te disais, en janvier, pendant les rancards, il y a les responsables de l'association Le Chèvrefeuille qui sont passés venir nous voir au cours d'une soirée. Ça leur a bien plu, ce qu'on faisait, l'esprit dans lequel on faisait, et on a eu envie de faire des choses ensemble. Donc on est parti sur cette base-là, et il s'est trouvé qu'on a eu la chance et l'opportunité de passer un week-end, donc le 3, 4, 5 juin, pour faire les escales. Donc voilà, donc ils amènent le plateau technique, c'est eux qui s'occupent de toute la régie, toute la partie technique, et puis nous on arrive avec l'idée créatrice artistique, en fait.
D'accord. Et est-ce que ce genre de partenariat avec d'autres avec d'autres associations, pardon, peut se oui. reproduire ensuite? Est-ce qu'il y a des associations avec lesquelles tu as des affinités particulières?
Oui, tout à fait. En janvier, c'était pareil. C'était avec les assos du bijou. On n'est pas sectaire, donc. Ouais. Effectivement, on est petit, on est une petite structure, donc si on peut le faire à plusieurs, c'est en s'unissant qu'on arrive à monter des projets intéressants. Donc, ouais, on est ouvert à tout, exactement à toute structure, à partir du moment où c'est constructif et qui sont dans cet état d'esprit de transversalité.
D'accord. Toi, du sport, qui connaissais pas donc cette manifestation, est-ce que œil neuf dessus, est-ce que tu veux
Je sais pas. Moi, j'avais une question quand même. C'est, ouais. Vous parliez de chèvrefeuille, ça vient de la péniche.
Ouais, c'est la péniche chèvrefeuille. Ouais.
D'accord.
Ils font le festival quand ils viennent de ça d'ailleurs. Aussi après.
Oui, c'est ça qu'ils font quand ils viennent de ça, où ils se déplacent tout le long de la Garonne et avec un concert chaque soir dans une escale différente. C'est pas mal aussi. Hein, ça fait 2-3 ans qu'ils le font.
Exactement.
Ils organisent ça pendant l'été et c'est vraiment très sympathique. Hein. Des haltes un petit peu incongrues, mais enfin bon, hein, on suit le canal, hein, c'est pas la même chose que la route.
Cet esprit d'ouverture qu'ils ont qui est intéressant.
Ouais, non, mais par le canal, c'est ça qui est vraiment très très
bien. Par le canal, ouais, exactement. Façon, un autre chemin, autre.
Et je viens de me rendre compte que j'avais mal fait mon boulot. Est-ce que tu peux nous présenter justement qu'est-ce que c'est cette manifestation? Qu'est-ce qu'il y aura comme discipline, etc. Et qu'est-ce que le plus grand public pourra trouver?
De manière chronologique. Donc,
le menu
du jour, donc. Donc c'est les vendredis 3, le samedi 4 et le dimanche 5 juin. Alors, ça commence à partir de 16h, à vrai dire, dans les après-midi. Les après-midi, il y a des ateliers artistiques ouverts à tout public. Des ateliers artistiques animés par les artistes de l'asso, avec de l'art plastique, de la danse, théâtre, de la vidéo. Et donc là, c'est ouvert à tout un chacun. Chacun peut venir se balader. C'est de l'initiation, c'est de la démonstration. Ils peuvent s'initier s'ils ont envie. Donc c'est au bord de l'eau, c'est à la halle du Ramier, à la Croix-Felgarde, c'est une première là-bas d'ailleurs. Et après il y a des soirées de spectacles vendredi soir, il y a deux spectacles par soir. Le vendredi soir, il y a un concert du Barouf et les Grands, on l'écoutera peut-être tout à l'heure.
Ouais.
Qui font de la chanson jazzy, ça swing, ça bouge, c'est sympa, elle a une voix extraordinaire la chanteuse. Avec un visuel du collagiste qui est Vigil, donc qui fait de la vidéo en live. Donc c'est en ce sens qu'il y a de la transversalité, il y a un croisement entre le visuel et le sonore. Et en deuxième partie, il y a un ciné-concert expérimental. Donc c'est Pierre-Yves Creux, comme tu disais tout à l'heure, qui fait des courts-métrages. Il nous vient directement de Montpellier. Il nous fait l'honneur de passer en plus pour l'occasion. Donc vous pourrez discuter avec le réalisateur de ces courts-métrages.
C'est ça qui est intéressant.
C'est super chouette. Ouais. Et sur de la musique live, donc le Barouf et les Gants qui va improviser dessus. C'est complètement free, on va dire. C'est chouette.
Et voilà, qu'il y avait continue dimanche.
Donc après le samedi soir, le samedi 4, donc des ateliers toujours de 16 à 18 tout en chacun, toujours, je vais pas répéter la même chose. Et soirée de concert le samedi soir, là par contre ça va être vraiment génial, il y a la performance avec Issa Art Plastique et Pascal Delay. Là j'incite tout en chacun à venir voir ce qu'ils font. Surprise, ça va être vraiment beau. Suivi d'un concert
surprise,
de...
Excuse-moi, ouais. Surprise parce que bon, je vois pas bien comment ça peut...
Ça
peut être cohérent. Un art qui est immobile, qui est censé être immobile, hein, c'est-à-dire l'art plastique, hein, ouais. Et un art qui est mobile, à savoir la danse.
Exactement, ils ont trouvé un fil conducteur qui est...
Bon, on voit pas comment
bien... C'est ça qui est intéressant.
Je me pose la question, franchement, quoi.
C'est pour ça que je dis surprise, vous allez être bluffé, j'espère, en tout cas. Ouais, donc ça c'est une perf, c'est sans filet, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils le font sans filet. Et vraiment il y a un respect par rapport à ces artistes qui se mettent à nu en fait, hein, devant le public, ça j'aime beaucoup. Après il y a un concert de minimal orchestral, donc là je ne me présente plus.
On a écouté un morceau avant, hein, c'est le premier morceau qu'on a écouté avant, la première virgule musicale.
Ouais, hein, qu'on a oublié de désannoncer, honte à nous.
Et qu'on avait déjà eu ici d'ailleurs à Radio Éphémère, ils avaient fait un petit truc live en direct là, à la radio, hein, qui était vraiment très très bien, hein, vraiment... Superbe.
Là aussi, c'est beau ce qu'ils font, d'électro-jazz, bien sûr, on présente pas. Il y a le collagiste aussi qui fait un visuel avec. La soirée va continuer après, avec justement Minimal Orchestra. Il y a des artistes qui sont là, ça va continuer longtemps le samedi soir. Et puis le dimanche après, on va être un peu plus, on va commencer un peu plus tôt. Il y a un pique-nique qui est organisé, donc à 13h, venez avec votre panier, c'est simple, c'est sans prétention. Venez vous installer au bord de l'eau, ça sera rempli de bon humour, ça sera convivial, il y a même une vente aux enchères, qui est organisé à 18h et qui sera présenté par Xavier qui fait des théâtres d'improvisation, donc c'est devant aux enchères comico burlesque.
Oui, Xavier qui par ailleurs est un des piliers de cette radio.
Oui, on va présente plus ici.
Voilà, qu'on a vu qui anime l'émission tous les mardis, tous les mardis, me semble-t-il, qui s'appelle pas si vite. Voilà, pas si vite.
Exactement. Et ça va très vite.
À partir de 19h, hein, tous les mardis sur Radio FMR.
C'est chouette. C'est vraiment chouette. Donc là, il va faire une vente aux enchères, en fait, de tout ce qui est installé sur place, parce que ça, je l'ai pas précisé encore. La programmation détaillée, ça, c'est important, mais.
Ne le faire voir avant. Hein.
Voilà, il y a un collectif qui fait une installation vidéo, collectif anonyme sur place. Il y a une expo photo de Jérémy Villy, une expo d'art plastique avec Issa. Il y aura même des graphes en direct. Hein, ça c'est Élie Toulousaine, c'est une petite association de la Croix Falgarde qui va faire des graphes en direct pour l'occasion. Donc c'est intéressant de s'allier avec une association de la Croix Falgarde.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Voilà, donc il y a des installations, le lieu est, on arrive, on pose nos baskets, on va dire, on réaménage le lieu pour le moment, pour pendant ces 3-4 jours, et puis après tout doit disparaître, donc il fait une vente aux enchères, Xavier, le dimanche soir.
Donc cette vente aux enchères, justement, va consister à vendre les travaux qui ont été faits en groupe, hein, c'est ça?
Exactement, ouais, c'est pour vendre en fait les travaux des artistes qui sont là, plasticiens et photographes. Pour l'occasion, il y a également un reportage par Sacossette qui organise un petit reportage, donc il viendra interviewer les gens comme ça de manière impromptue. C'est participatif, le public n'est pas receveur d'images ou de spectacle quel qu'il soit, il est pleinement dedans dans le spectacle.
D'accord, donc c'est ça qui est amusant, c'est que d'un côté tout va disparaître, d'un autre côté vous allez garder une trace de tout ça. Et,
exactement.
D'accord. Ah, c'est bien trouvé finalement. oui, au fait, j'avais une petite question aussi, je viens de la retrouver.
Oui.
Combien de temps ça demande de préparation une manif comme celle-là? Une manifestation comme ça, comme les escales?
Ça prend un peu de temps, parce que à chaque fois c'est sur le moment, on présente pas quelque chose de déjà tout prêt.
Ouais.
Donc tu vois, la programmation elle est fine en ce sens que chaque intervenant, comme je te dis tout à l'heure, on a été les voir, il y en a certains qui font partie du collectif qu'on connaît déjà un peu, on présente, on explique un petit peu, voilà, on voudrait faire ça dans tel cadre. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Qu'est-ce que t'as envie de présenter à ce moment-là? Alors, il y en a qui sont sur de propositions, qui disent, ah, moi, j'aimerais bien essayer ça, mais je connais pas cet artiste-là, est-ce que ça vous tente qu'on essaye? Bon, ben, voilà, quoi. Ça prend du temps de manière individuelle, en petit comité, on fait des petites réunions, après des plus grandes, après de manière plus impromptue. Et puis voilà, puis on en arrive à une programmation homogène et fine. Donc on est toujours sur le fil du rasoir, et c'est ça qui est sympa, parce que c'est unique à chaque fois, quoi.
D'accord. Les œuvres éphémères. Comme la radio. Ah bah tiens, oui, on va passer ce que tu nous disais, le Barouf.
C'est le Barouf?
Ouais.
Ouais, alors le Barouf, tu peux expliquer un petit peu
Alors le Barouf élégant, c'est un jeune groupe. On a eu le plaisir en fait de les avoir en janvier, pendant les Rancards. C'était une de leurs premières scènes, à vrai dire. Ils en avaient fait quelques-unes avant, mais c'est une première grosse scène passée dans la salle du bijou, salle emblématique, tout et tout. C'était pas évident. Ils s'en sont super bien sortis, et depuis, on veut plus les quitter, ils sont trop bons.
Flagellation en direct. Eh oui, je me suis planté carrément.
Oh, oh, oh.
Là, c'est chaud, hein, quand même, quoi. Non, là, c'était encore Minimal Orchestra, hein, parce qu'il y a deux disques dans la pochette. Alors, tu vois, c'est un peu compliqué. Et bon, j'avais pas capté dès le départ. C'est pas mon
c'est
boulot. Hein.
Aussi, hein.
Oui, en vrai.
D'habitude, c'est pas moi qui suis là. Hein. On est d'accord. Bon, ok. Non, bon, allez.
Le Barouf, il est grand.
Le touche de que je l'ai pris pour cible, ma soif s'avère inextinguible. des messieurs, ses dimensions, grandeur, nature. Je m'exerce à théoriser une histoire de l'art du baiser. Je comprends mieux pourquoi la pluie, quand je me promène avec les folles boucles qu'elle dessine dans sa chevelure enfantine, le soleil n'est plus un mystère. Il illumine sa peau claire, et pour du soir de mon amour qui se prolonge au point du jour, ma peine va mettre à l'index courbes, concaves et convexes. On a gagné, c'est avec l'ignacité que j'étudie sciences et arts. Appliqué à lui, je me fais séduiteur. Lui, la plus belle des manières de développer.
Radio éphémère toujours, il est 13h45 sur les 89.1. 12h,
ouais, excusez-le, il débute. Hein. Bon, bah, c'est l'occasion. Bah, tu vas nous désannoncer le morceau qui vient de passer.
Le morceau, là, c'était, ouais. Ouais, c'était Marouf Élégant, effectivement.
Voilà.
Contrairement à ce qui avait été lancé tout à fait au début, juste avant.
Ouais, non, mais
c'était minimal orchestral.
Rien culpa, pas. Hein.
Deux ambiances différentes.
Voilà, et eh bien, c'est l'occasion de rappeler une dernière fois que à la Halle du Rami et la Croix-Falgarde, le vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin, donc c'est dans deux semaines, les escales organisées par les Illustres Inconnus en collaboration avec l'association Le Chèvrefeuille. Ce sera l'occasion pour le grand public de voir des œuvres, des arts d'art interdisciplinaire et puis créer des sortes de créations hybrides. Et,
oui, c'est un carrefour, un carrefour des arts. Voilà, je voulais rajouter juste une petite chose, oui, par rapport à ça. Il y a pas mal d'intervenants qui m'ont demandé ouais, pourquoi la Croix-Falgarde, où est-ce que c'est. Donc c'est pas compliqué, hein, c'est sur la route du feu Bikini. Donc, route du Bikini, un quart d'heure de route en voiture et vous arrivez à la Croix-Falgarde, au bord de l'eau, à l'aile du Ramier. Pour information, juste un petit clin d'œil, dans les années 60, il y avait une ligne d'autobus qui a existé, qui faisait Toulouse la Croix-Falgarde. Elle fut inaugurée début des années 60. C'était tout simple, c'était pour faire venir les Toulousains le week-end sur des guinguettes improvisées au bord de l'eau, et C'est un petit clin d'œil par rapport à ça qu'on a voulu refaire dans ce toile. Voilà.
Okay,
bon, Gaëlle Bonnaire, on va dire.
Alors, on passe un deuxième morceau, là, vite fait encore. Hein.
Allez, si
Allez,
tu veux.
Parce que bon, le premier, tu m'as dit qu'il était mou, mais enfin bon, faut quand même pas déconner. Merde.
Allez, je te fais confiance. Ah ouais.
Ça, c'est le tube.
C'est l'occasion de rappeler aux gens, au grand public, où est-ce qu'ils pourraient trouver des infos, notamment sur le net, sur les Illustres Inconnus.
Oui, tout à fait, sur le site des Illustres, tout simple, donc illustre avec un s-inconnu.org. Donc là, vous avez toutes les infos sur la programmation des escales à la Croix-Folgarde, des petites cartes d'identité sur chez chaque intervenant, et puis vous avez également un numéro de téléphone, un phone line, au 05 62 19 06 06. Voilà, juste préciser que tout au cours du week-end, il y a une buvette sur place, restauration antillaise, attention, en plus, donc ça va être un moment de joie, festif, venez, c'est sans prétention, c'est sympa.
D'accord.
Voilà.
Bah, du sport, c'est l'occasion de maintenant de passer à la section télévision.
Eh oui, mais comme je savais qu'il y avait un invité, des invités et un invité, je me suis dit, je vais y aller léger, tranquille, voilà. Mais je vous ai quand même trouvé quelques petits trucs. Faut dire que bon, en ce moment, c'est pas gégène. Il y a un truc que j'ai complètement oublié de préparer, dont je voulais vous parler quand même cette semaine. C'est un petit peu difficile parce que c'est une série qui passe en milieu d'après-midi. Tu sais, c'est les programmes bouche-trou des chaînes privées qui achètent des séries à tour de bras comme ça, des lots carrément de séries. Tiens, tu veux cette série vedette, tu prends les trois autres avec, sinon tu la prends pas. Si, c'est comme ça que ça se passe, hein, les business. Et ils sont quand même obligés de les passer, hein, parce que bon, dans les contrats en plus, il faut savoir qu'il y a des obligations de diffusion, hein, c'est-à-dire que quand une chaîne française achète une série américaine, il faut savoir qu'il y a un contrat de diffusion, ils sont obligés de diffuser la chaîne, la série un certain nombre de fois, des fois dans des cases horaires bien définies. Enfin bon, ils plaisantent pas avec ça, hein, de toute façon. Attention, quoi. Bon, après, il y a certaines chaînes qui font quand même pratiquement ce qu'elles veulent, hein. Le cas de TF1 est le plus évident, mais enfin bon, les chaînes publiques sont pas épargnées non plus, attention, hein. Et, des fois c'est pire. Mais enfin bon, TF1 quand même tient le pompon, et il s'agit d'ailleurs de TF1, car il s'agit d'une série qui passe tous les jours de la semaine, je crois vers 16h, il me semble, 16h20, un truc comme ça, si mes souvenirs sont exacts, du lundi au vendredi, et qui s'appelle Détective en série, me semble-t-il. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est une énième série policière sur la résolution d'affaires criminelles, bien entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'équipe est entièrement féminine, avec des petites jeunes filles qu'on a déjà vues. Des jeunes filles et des filles un petit peu plus âgées qu'on a déjà vu dans d'autres séries, mais comme j'ai pas préparé, je peux pas vous dire qui est quoi, et la série a l'air assez intéressante. Bon, moi j'ai du mal à regarder parce que je suis pas là. Enfin, jetez-y un coup d'œil, donc c'est sur TF1, je crois que c'est juste après New York Police Judiciaire, comme ils l'appellent, Law and Order, l'épisode journalier qu'il y a sur TF1 tous les après-midi, donc du lundi au vendredi. Sinon, pour rester un petit peu plus sérieux, et là on va quand même parler de pas vraiment de série, mais enfin c'est plutôt une mini-série, hein, parce que bon, il n'y a que 6 épisodes en fait, hein, donc c'est dans le registre mini-série, parce qu'il n'y a que 6 épisodes. Par contre, c'est quand même le format série, parce que ça fait 50 minutes par épisode, et c'est une série anglaise qui a été montrée sur la BBC en 2003, hein, c'est-à-dire assez récente, et qui s'appelle, traduit en français, « Jeu de pouvoir », hein, qui parle un petit peu de la manipulation des médias, qui va se faire entremêler plusieurs histoires qui, au départ, n'ont rien en commun. Hein, les Anglais sont assez forts, hein, dans ce domaine-là. Hein, de toute façon, on arrive à mélanger comme ça les petites histoires. C'est écrit par Paul Abbott, un mec qui nous a fait quand même... Bon, pour le meilleur et pour le pire. Alors, on commence par le pire, Coronation Street, hein, qui est le truc emblématique, hein, des feuilletons anglais. Hein, ça a commencé il y a 40 ans, monsieur Moultil, 40 ans, 35 ou 40 ans, que on se tape Coronation Street sur la chaîne anglaise. Alors, les feuilletons français, allez-vous habiller depuis longtemps, hein. EastEnders, qui est la série dont tout le monde parle, parce que, c'est un petit peu plus près du public, on va dire, hein, parce que c'est carrément, t'as l'impression que c'est le voisin qui est à la télé. EastEnders n'a que 20 ans, je crois, ou un truc comme ça, quoi. Bon, on a déjà vu les jeunes devenir vieux dans EastEnders, faire des enfants, les enfants grandir, enfin bon, on a déjà vu tout ça. Mais dans Coronation Street, on a vu des générations.
Et la Coronation Street, c'est la série qui passe tout le temps aux enfants de la télé quand il y a Franck Dubosc en invité.
Voilà.
Parce qu'il a fait une apparition dedans.
Voilà. Alors, Paul Abbott qui avait fait aussi une excellente série, hein. Enfin, c'était plutôt une série de mini-films, hein, on va dire, un film télé, qui s'appelait Cracker, qui était vraiment excellente, hein. L'histoire d'un profileur anglais, du côté de Manchester, mais qui a l'habitude de bien picoler, et qui va avoir des problèmes de couple,
ouais, c'est enfants, le gros, là.
Avec le gros, là, ouais. C'était carrément excellent, très bon, et le gros qui joue le rôle d'un méchant dans un James Bond, on se rappelle pas, mais c'est un excellent acteur anglais, donc le meilleur et le pire, et c'est lui qui écrit donc cette mini-série Jeu de pouvoir avec John Sim, avec David Morrissey, Gregory Pullman, et Kelly MacDonald. Ça passe à partir de jeudi prochain sur Canal+, 20h55, deux épisodes diffusés à la suite, et comme il y en a 6, eh ben, ça vous fera 3 jeudis de suite sur Canal, avec cette série anglaise Jeux de pouvoir, un peu plus près de nous, c'est carrément ce soir, et ça vaut le coup, ça a été diffusé jeudi dernier sur Canal Jimmy, mais il y a toujours les rediffs, et là il faut vraiment s'y intéresser, parce que c'est un téléfilm en deux parties, hein, c'est-à-dire deux fois 1h30, grosso modo, qui s'appelle Spirale Tragique. C'est écrit par une Anglaise qui s'appelle Miss Moga. Alors, Moga, c'est son vrai nom de famille, hein, c'est vrai, c'est pas des conneries. Et en fait, ça raconte l'histoire très simple d'une nana qui travaille dans un espèce de truc où elle certifie des chèques et tout, et elle décide de trafiquer un chèque pour se mettre le pognon sur son compte. Et en fait, il s'agit d'un chèque de paiement du téléphone. Donc il y a une famille un peu plus loin qui voit son téléphone coupé, manque de bol, ça va provoquer un accident très grave, et voilà, une spirale tragique d'accidents très graves qui vont découler de ce petit fait anodin, de style à la place de marquer NT, c'est-à-dire N Télécom, la chaîne anglaise de Télécom, on marque Nathalie Taylor, et puis voilà, on encaisse les 150 livres, c'est-à-dire 1000 balles, on va dire, comme ça, sur son compte en moins. Et ce petit truc, ça va devenir un truc de plus en plus gros. Et c'est donc un truc en deux parties. C'est la première partie que vous pouvez voir ce soir, donc séance de rattrapage avec, je parlais d'EastEnders avec, dans le rôle principal, la jeune nana qui commence à faire des conneries, Tamsin Outhwaite, qui est justement une nana échappée de EastEnders. Il y a Simon Pegg également, Matthew Chambers et Liam Cunningham. Deuxième partie, ce sera jeudi prochain à partir de 20h45. Sinon, on a également demain soir sur 13e rue, dans deuxième partie de soirée, on va dire un petit truc sur Olivier Marshall. Sympathique.
Ouais.
Hein, alors avec pour se mettre
Police
dans
District.
Ouais, Police District, l'excellent Police District. Enfin c'est lui, c'est le flic principal. Il a donné quelques idées de scénario, mais il faut dire que c'est Hugues Pagan qui est quand même à l'origine de Police District, de toute façon quoi. Donc sa première réalisation à Olivier Marshall, c'est plutôt Gangster, le film qu'on pourra voir donc demain soir à 22h30, c'est un jeu rattrapage parce que depuis il nous a fait 36 Quai des Orfèvres. Et c'est suivi par contre juste après, mais c'est très tard, c'est à minuit après le film, de Paroles de flic. Et en fait, en un quart d'heure, Olivier Marshall nous raconte son expérience de flic quand il était inspecteur de police ou commissaire de police à Versailles et qu'il a exercé ce métier pendant plus de 8 ans. Quoi. On est inspecteur, les boules, enfin tout ça, voilà.
C'est
ce qu'il arrive vraiment à bien retranscrire dans Police District, justement, c'est du vécu, il n'y a pas de problème. Avec Hugues Pagan, qui est donc à l'auteur et qui est un écrivain de romans policiers, mais qui était également flic avant, on est tous de la même maison, il n'y a pas de problème. Mais c'est le rendu est quand même très très bon de toute façon. Donc Gangster à 22h30 et Paroles de flic à 0h05, c'est demain soir sur 13e rue, avec avant en première partie de soirée pour les Inconditionnels de Law and Order, 20h45, deux épisodes, et surtout ça vaut pour les guest stars, enfin si vous n'avez pas vu les épisodes ça vaut toujours le coup de toute façon Law and Order, mais là déjà dans l'épisode de la saison 6 qui est diffusé à 20h45, on retrouve Molly Price qu'on connaît puisqu'on l'a vu dans New York 911. Et dans l'épisode suivant, Law and Order saison 7, celui de la saison 6 s'appelle On ne tue qu'une deux fois, et celui de la saison 7 s'appelle Corruption, et on retrouve Skip Sudut de New York 911.
Encore.
Ouais, dans deux épisodes différents. Le Clint de la semaine. Là, c'est un bon Clint quand même.
Comme moi, j'ai. Jingle, là,
comme que moi, j'ai. Non, mais attends, parce que en fait, c'est très simple. Sur 13e rue, ils ont une rubrique, plutôt carrément une thématique qui s'appelle Happy Birthday, Mr. Clint.
Ah,
ce qui fait que tous les lundis soirs, t'as droit à un Clint. Avec, il y a eu également quelques émissions qui ont été diffusées comme ça, avec des reportages sur Clint, tournage de ce film, tagada. Clint qui fait Hello Tresemmer, bonjour, enfin bon, des trucs comme ça quoi, enfin voilà. Et là celui de lundi quand même c'est un des pas très connus, on s'en rappelle pas souvent de celui-là parce qu'il est un petit peu glauque faut dire, et il s'agit de Tightrope, la corde raide.
Ah oui, 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 oui.
Avec Geneviève Bujold et le magnifique Dan Hedaya, ça vaut vraiment le coup de toute façon, réalisé par Richard Tuggle, mais ça on s'en fout complètement parce que le film est moyen, on va dire, il est pas extraordinaire quoi. Mais par contre, il règne une espèce d'ambiance à l'intérieur qui est bien malsaine et que moi j'apprécie tout particulièrement.
Oui, oui.
Surtout que c'est le seul film où on sent que c'est un petit peu glauque comme ça, il y a peut-être également le l'inspecteur, le retour de l'inspecteur, quand c'est sa femme, l'assassin, qui est également un petit peu glauque à la fin, parce que bon, il y a une scène de viol qui est vraiment bien poussée, on va dire. Hein, Clint, il y allait bien, font les manettes. En plus, c'était sa femme. Bon, faut pas déconner. Bon, ben voilà quoi. Enfin, bon, à l'époque, c'était plus sa femme, hein, je crois. D'ailleurs, ils étaient séparés à l'époque, quoi. Explique peut-être cela.
L'accord de Red, c'est dans ce film où on sait pas trop si c'est lui l'assassin jusqu'à la fin.
Oui, parce que bon, bah, il s'agit de nanas qui ont été attachées, qui ont été violées, massacrées. Donc bon, bah, il enquête là-dessus, mais en fait, au bout d'un moment, on sait plus trop s'il a participé, parce que bon, il connaissait plusieurs des nanas. Enfin bon, c'est pas mal, hein, c'est vraiment une bonne ambiance et tout, c'est un bon petit Clint, hein, de toute façon. Et là, quand même, pour la fin, je vous ai gardé le meilleur, c'est le téléfilm de la semaine, et ça passe sur Teva. Mercredi prochain à 20h50. Alors c'est toute la soirée, hein. C'est deux fois 1h40. Un assassin irrésistible. C'est filmé par Marvin Chomsky. Et Marvin Chomsky, lui, c'est le mec qui n'a jamais rien fait de flagrant au cinéma, mais peut-être qu'il se plaît mieux à la télé. Et il nous a fait toute une ribambelle de téléfilms et de mini-séries sur la vie de Staline. On a eu droit à des sagas héroïques sur des épisodes de l'histoire en rafale, hein, disons, il en fait un par année depuis le début 80, donc fait le calcul, et c'est toujours d'excellente qualité, avec surtout ben, des castings, des fois tu tombes le cul par terre, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout à la télé, il serait bien mieux au cinéma et tout. Oh, moi au cinéma, il n'y a pas assez de place, mon gars. C'est pour ça. Un assassin irrésistible, un téléfilm assez vieux quand même, hein, de 86, avec donc ben, Marc Harmon, encore très jeune, et très séduisant, et très beau, Marc Harmon, Chicago Hope, et NCIS.
Ah oui.
Là, il a les cheveux blancs dans NCIS, mais c'est normal, hein, c'est maintenant. Et il y a également Frédéric Forrest. De quoi ça parle? Ça parle de l'histoire vraie de Ted Bundy. Qui est Ted Bundy? C'est le monsieur qui est là sur le t-shirt.
Voilà. Ah oui. Voilà. C'est pas le mec de Marie deux enfants?
C'est Al Bundy. Là, c'est Ted Bundy, hein. Enfin, qui a été l'un des serial killers les plus prolifiques. Enfin bon, au niveau du nombre de meurtres qui lui ont été attribués, et pour lesquels on est pratiquement sûr que c'est lui, il en est à plus d'une trentaine, hein, 36 je crois au total, mais enfin bon, il aurait avoué bien d'autres crimes. Enfin bon, c'est aussi que des fois les serial killers aiment bien se mettre en valeur, aiment bien se montrer donc exagère. Et Ted Bundy, interprété donc par Marc Harmon, vraiment excellemment bien, hein, dans ce téléfilm. On va dire qu'il n'y a pas vraiment de scène gore dans le film, enfin disons, il y a certains moments où le climat est assez trouble et assez pesant, on va dire, hein, quand même, dans le téléfilm. Bien que ce soit un téléfilm, hein, qui soit regardable par pratiquement tout le monde. Enfin, j'y mettrai pas mes gosses devant, quand même. Faut quand même pas déconner. Hein. Alors, Ted Bundy, un mec qui s'est baladé de Washington, il a tué, en plus, dans plusieurs états. Hein, c'est ça qui est magnifique aux États-Unis. Hein, c'est que si tu changes d'état et tout, il n'y a pas de problème, on te connaît plus, tu prends une nouvelle identité. Et c'est carrément génial, c'est ce qu'il a fait. Il s'est pas emmerdé, hein, tranquille. Il a carrément, il a commencé par dégommer des nanas du côté de l'État de Washington. Ensuite, il est descendu un petit peu plus bas dans le Colorado. Ensuite, il s'est dit que ça commençait à chauffer vraiment pour lui. Et ben, il a carrément changé d'État, mais il est parti de l'autre côté, c'est-à-dire en Floride. Il s'est fait gauler une première fois. On l'a ramené au Colorado. Il a réussi à s'échapper de tôle. Et il a encore redégommé des nanas en redescendant en Floride. Il a quand même commis des trucs assez incroyables. Hein. Bon, c'est le mec qui carrément, il revenait après avoir violé les nanas, intromission d'objets, tout ça. Il allait entreposer les corps, il revenait des jours après pour avoir un petit peu de sexe avec les cadavres. Enfin bon, vraiment, c'est le top au niveau glauque. C'est vraiment, c'est difficile de faire beaucoup mieux, hein, de toute façon, quoi. Parce que lui, en plus, il y a la quantité également, quoi. C'est ça qui est assez intéressant. Et si vous voulez tout savoir, quand même, si ça vous intéresse, quand même, il y a un excellent bouquin. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs bouquins sur lui. C'est un bouquin qui s'appelle Un tueur si proche, l'affaire Ted Bundy, écrit par Anne Rule. En fait, c'est assez intéressant parce que bon, Anne Rule, au départ, elle était keuf, mais au bout d'un moment, elle a commencé à connaître bizarrement Ted Bundy parce qu'ils se sont connus en faisant le même boulot. En fait, ils travaillaient dans un service de téléphone où t'as les gens qui appellent, qui se disent je me sens pas bien, et puis t'as un mec au bout du fil qui dit mais si, t'en fais pas et tout, mais pourquoi et tout, et qui essaye de genre SOS suicide, SOS solitude, des trucs comme ça. Et en fait, les deux, pour meubler leur loisir ou pour faire preuve de bonne charité, tout sur leur temps libre, bossait dans ce genre d'endroit, et donc c'est là qu'ils se sont connus. Et Anne Rule donc a connu Ted Bundy, le temps qu'elle l'a connu, elle s'imaginait pas que le mec il avait déjà dézingué trois nanas, tu vois. Bon, c'est ça qui est assez dingue. Et en fait, Anne Rule donc a écrit ce bouquin une fois que Ted Bundy a été connu du grand public, parce que il faut dire que il a pu dézinguer des jeunes filles et se déplacer dans pas mal d'états plusieurs années de suite, hein. Il a commencé, je crois, en 75-76, on l'a arrêté en 84 la première fois, en 86 la deuxième fois. Il a été exécuté à la chaise électrique en 89, et donc elle s'est mise à écrire ce bouquin, sachant que Ted Bundy, une fois en prison, continuait à correspondre avec elle, à lui écrire des lettres et tout ça. Donc, des lettres à prendre au sérieux, plus ou moins. Enfin bon, ça c'est leurs histoires. Donc Anne Rule, ça s'appelle Un tueur si proche. Et là, ça rentre vraiment bien dans le vif du sujet, sans problème. C'est dans le même registre, mais plus général, on va dire, des bouquins sur les serial killers. Il y en a deux qui sont pas mal, dont celui-là. Alors celui-là, c'est le top, c'est le nickel. C'est écrit par Robert Ressler, monsieur Robert Ressler, qui a été l'un des instigateurs du programme VCAP, c'est-à-dire la méthode pour traquer les serial killers basée sur des trucs, des schémas bien précis, des petites choses. Alors lui, il raconte tout, hein. Puis bon, c'est dans ce bouquin qu'il raconte que de tous les serial killers qu'il a pu rencontrer, avec qui il a eu des conversations, c'est un mec qui a même été cité par la défense de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, c'est le mec qui tuait des garçons, et puis on a retrouvé des morceaux de corps chez lui partout, dans le frigo, dans le formol et tout. Enfin il aimait bien les garçons, surtout les jeunes asiatiques d'ailleurs. Et il avait pris Ressler comme témoin de la défense carrément, tellement ce mec est reconnu dans son métier. Et ce type-là, ça, il a commencé dans les années 60, Robert Ressler, hein, s'intéresser à ce phénomène, hein, des crimes en série et tout ça, et il a développé son truc pendant les années 70, et ça a commencé à devenir efficace, en fait, au début des années 80, et c'est pour ça que c'est à partir du début des années 80 qu'on a commencé à choper pas mal de serial killers, alors qu'il y en avait beaucoup d'autres qui étaient passés au travers des mailles du filet. Et c'est dans ce bouquin qu'il dit que, de tous ceux qu'il a rencontrés, hein, Ed Kemper, enfin, il en a fait une tapée quand même, c'est quand même Ted Bundy qui l'a le plus impressionné. Parce que il sait toujours pas de quoi est fait ce mec-là. Il était bien content quand le mec a été grillé. Enfin, ça c'est son avis personnel. Et pour le registre français, on a ça, c'est le tout venant, on va dire. Hein, c'est Stéphane Bourgoin, le spécialiste français entre guillemets des serial killers. Et ça, c'est le bouquin. Il en a écrit pas mal, hein, sur les serial killers. C'est on va dire, c'est par celui-là qu'il faut commencer si vous voulez vous intéresser à ce phénomène, avec des petits schémas au début, hein, des petits trucs, tout, et puis après l'histoire de quelques cas, les cas les plus connus des serial killers, bien entendu. Stéphane Bourgoin, ça s'appelle Serial Killer, enquête sur les tueurs en série, c'est paru chez Grasset.
Et c'est lui dont la femme a été assassinée par un serial killer.
Voilà,
c'est ça.
Ouais, c'est ça. C'est sa vocation entre guillemets lui est venue quand sa femme ou sa copine a été assassinée par un serial killer, et donc il est pour faire son travail de deuil, à mon avis, il a voulu s'intéresser à ça. Mais lui, il est carrément allé interviewer aux États-Unis, dans les prisons, les serial killers, hein, les mêmes que Ressler avait aidé à contribuer à arrêter. Eh bien, lui, il est allé les interviewer pour des interviews des fois assez longues et assez dures, on va dire. Hein. C'est glauque, quoi. C'est quand même relativement intéressant. Alors, je vous rappelle donc ce téléfilm, hein, qui présente sous un jour équitable, on va dire, hein, le tueur, l'assassin irrésistible qu'est Ted Bundy, sous les traits de Mark Harmon, le flic en face, c'est Frederick Forrest. Et comme Frederick Forrest, de toute façon, c'est un excellent acteur, c'est tout à fait normal que vous ayez envie de regarder ce téléfilm. C'est la semaine prochaine sur TVA à 20h50, 2 fois 1h40. Alors préparez-vous les pizzas, la bière et tout ça. Peut-être que vous aurez pas envie de manger non plus.
Une robe de cuir comme un fuseau collé du chien sans faire exprès, et dedans comme un matelot une fille qui tangue un air anglais. C'est strange, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller.
sestra, 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 sestra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des gènes. Ce jazz qui jasse dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. Cet extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui plie.
Eh ouais, c'est extra.
C'est extra.
Là, il est 13h12 sur la pendule du radio éphémère. Thomas, hein?
Je disais qu'on est, on est loin de, du débordement de 26 minutes qui, notre, qui reste notre record quand même.
Hein. Ouais, ouais, bon, enfin bon, là on fait durer. Hein. Puis en plus, on passe les morceaux en entier. on s'emmerde pas là, tranquille. Hein.
Ouais, salut si tu nous écoutes.
Allez.
Bon, bon, on va finir l'émission.
Yes.
En annonçant que le week-end prochain, il n'y aura pas de supplément week-end, mais une spéciale congrès des radios. Et c'est l'occasion aussi, puisqu'on est également écoutable sur le net, pour nos auditeurs sur le net, s'ils veulent se repasser l'émission, et s'ils ont raté le début, de leur dire ce qu'ils ont loupé. Donc on avait une absence d'animateur, qui est excusée aujourd'hui. On a eu un oubli de désannoncer de ma part au morceau, c'est honte à moi, mea culpa. J'ai chopé un nouveau tic aussi, Xavier a détenu sur moi, je dis beaucoup véritablement en ce moment, il m'a dit que c'était déconseillé par son médecin, je vais penser à consulter.
Ouais, moi c'est vraiment, alors je veux dire.
Ah, vraiment, véritablement, tout le monde a le sien, et puis on a quand même aussi... Ah ouais, du sport, hein, merci au CD à un moment donné, désolé de te le rappeler, mais bon, c'était pour la forme.
Une robe de cuir, comme un oubli. Corée du chien, ça me fait l'esprit. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blues qui s'en balancent. C'est un pli qui ne veut plus rien.
Bon, ben, on se dit au revoir.
À la semaine prochaine, alors du sport.
Ben, à la semaine prochaine, hein. Bon, ben, là, je viendrai de nouveau à mon horaire habituel.
Ouais. Et BRV, merci beaucoup d'être venu.
Merci de m'avoir accueilli, c'était super sympa.
On souhaite beaucoup de succès à la manifestation dans deux semaines.
Ok, merci bien.
Allez, et puis comme je suis dans le mood, et puis que Armand il a fini sa chanson, je vous parlais quand même de ce qu'on va évoquer dans ce qui suit, là, les trois quarts d'heure qui restent, avec tout d'abord quelques petites histoires de dopage, hein, parce que ça c'est toujours fréquent dans le monde du sport. Ensuite, il y a beaucoup de football avec la avant-dernière journée du championnat de France de football. En Ligue 2, c'est plié, en National, c'est plié, on va voir qui c'est qui monte, qui c'est qui détend. Descend en CFA, c'est presque plié, il y a du foot à l'étranger avec quelques championnats où c'est plié, d'autres où bah, on joue la dernière là. Et il y a du rugby également avec le Stade, mais ça c'est que demain. Et même un petit peu de boxe et la télé sportive d'aujourd'hui si on a un petit peu le temps.